Chers amis, nous voici réunis pour le 16e congrès du Courrier de Rome, congrès qui, tous les deux ans, depuis 1994, se réunit pour étudier l'actualité religieuse à la lumière de la théologie catholique. Avant d'écouter le premier conférencier, M. l'abbé Portail, penchons-nous très brièvement sur l'origine de la revue appelée Courrier de Rome. Quand a-t-elle été fondée ? En 1967, 3 ans avant que Mgr Lefebvre ne fonde la fraternité sacerdotale Saint-Pilice. Qui sont les fondateurs de cette revue ? Ils sont 3, le général Jean Lecomte, M. de Méritant et M. l'abbé Mautier. Dès les premiers numéros de la revue, il apparaît clairement que l'objectif consiste à défendre la doctrine catholique face aux erreurs du modernisme développées spécialement par le Concile Vatican II. Ces 3 courageux fondateurs font donc partie de ces pionniers qui, comme Jean Madiran, comme l'abbé de Nantes, l'abbé Coache et bien d'autres, ont aidé beaucoup de laïcs et de prêtres à résister à la tempête conciliaire. Sans eux, nous serions peut-être réunis ici pour vénérer la Pachamama, ou bien lutter contre le réchauffement climatique, ou pour l'accueil des migrants musulmans. En 1982, le général Lecomte se rend à Écône, accompagné par le colonel Louis Pasteau. Tous deux, âgés, demandent à Mgr Lefebvre de prendre la suite de la revue. Mgr accepte et la confie à M. l'abbé Emmanuel Duchalard, qui assurera la direction du Courrier de Rome jusqu'en février 2021. Voilà donc 55 ans que cette revue existe et paraît chaque mois pour nourrir les intelligences et armer les catholiques contre les erreurs et les hérésies actuelles. 55 ans que des prêtres et des laïcs solides théologiquement rédigent des articles denses pour consolider la foi des fidèles et du clergé. Mentionnons parmi les rédacteurs du début M. l'abbé Dulac, M. l'abbé Desgravier, M. Louis Salron, le professeur Salet, Mgr Spadafora et beaucoup d'autres. En 1988, le Courrier de Rome signe un accord avec une revue italienne antimoderniste appelée Sissi Nono, fondée en 1975 par Don Putti. C'est le début d'une collaboration fructueuse qui durera jusqu'en 2008. En même temps que la revue, le Courrier de Rome devient maison d'édition et publie de nombreux livres que vous trouverez en vente sur la table en sortant. Peu après, le travail se modernise grâce à un site internet qui permet encore aujourd'hui de télécharger gratuitement chaque numéro et d'accéder aux archives. À partir des années 2010, un nouveau rédacteur va se faire remarquer par la qualité de ses articles d'ecclésiologie, Monsieur l'abbé Jean-Michel Glaise, que nous écouterons en fin de matinée. Monsieur l'abbé Duchalard a été aidé sur le plan matériel et logistique par des laïcs généreux et efficaces. Mentionnons Monsieur de Roquefeuille, qui passera la main à Monsieur Roger Boulet, sans oublier Messieurs Bertrand Pruvot, Marc de Cacret, Maurice de Sainte-Marie et beaucoup d'autres. Quant aux collaborateurs actuels, je voudrais spécialement remercier Messieurs Jérôme Anapier, Francis Vaillant et Emmanuel Le Pape. En 2021, M. l'abbé Duchalard confie à M. l'abbé Pagliarani, supérieur général de la fraternité Saint-Pilice, son désir de se décharger de la responsabilité du Courrier de Rome, après 39 ans de dévouement au service de la vérité catholique. C'est votre serviteur qui a été désigné pour le remplacer. Peut-être que notre supérieur a estimé que, étant seulement directeur du séminaire d'Écône, je risquais de tomber dans l'oisiveté. Ce changement de directeur ne modifiera pas la ligne de la revue. En 1967, comme en 1967, nous nous battons avec les armes intellectuelles pour Jésus-Christ, pour la foi catholique et pour la Sainte Église romaine. Et notre plus belle récompense, c'est vous, chers lecteurs, de la revue et chers auditeurs du congrès, vous qui profitez de notre travail et qui vous nourrissez des fruits de notre labeur. Je laisse la parole à monsieur l'abbé Laurence qui, en tant que directeur de la revue d'ici, a participé efficacement à l'organisation de ce congrès.
Merci infiniment, monsieur l'abbé, pour ces quelques mots. Je me permettrai, je sais que vous serez d'accord, d'ajouter un petit hommage à quelqu'un qui était toujours au congrès du Courrier de Rome et qui vient de nous quitter. Malgré son grand âge, Paul Andria, qui était un fidèle lecteur, mais surtout quelqu'un qui ne manquait pas un des congrès. Donc nous aurons à cœur de prier pour le repos de son âme. J'ajouterai également alors une lectrice et une fidèle du congrès. Elle ne venait pas tout le temps, elle était venue la dernière fois. Elle vient de disparaître, elle est enterrée aujourd'hui à Écône, je pense à Roland Bellouchou. Donc nous prierons aussi pour elle. Fait partie des fidèles soutiens de ce combat doctrinal de la fraternité Saint-Pédis. Le congrès, comme souvent, nous a été imposé dans son thème par l'actualité, lorsque M. l'abbé de la Cosmonique se prend comme sujet, il me semble qu'il ne peut pas ne pas prendre le motu proprio traditionnis custodes. Il pose de gros problèmes, et donc on va pouvoir les voir les uns après les autres pour ces six conférences. Il m'a semblé qu'au tout début, il était utile, et c'est là que j'ai fait appel à un historien, M. l'abbé Portail, qui est professeur d'histoire de l'Église à l'Institut Saint-Pédis, qui est au moitié du officiel, qui a encore beaucoup d'autres activités. Je lui ai demandé de nous camper un petit peu le panorama historique, de nous dire un petit peu ce motu proprio n'est pas le fruit de la génération spontanée et il arrive après bien d'autres motu proprio, indus, etc. Donc il va nous brosser ce tableau. Ensuite, je parlerai d'une des difficultés que pose le texte traditionnis custodes, cette opposition entre la messe tridentine et le concile. Puis M. l'abbé Glaise, en troisième partie, lui nous parlera de cette objection qui est soulevée dans le texte lui-même traditionnis custodes, à savoir que la tradition divise l'Église, va contre l'unité de l'Église. Donc voilà le programme de ce matin. Nous aurons donc ces deux conférences qui se suivront, ensuite une pause, vous pourrez vous rendre à la librairie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur l'abbé de la Coste, et puis nous aurons la conférence de l'abbé Glaise, et comme promis, il y aura la messe à midi et quart, à l'étage pour les en particulier, et tous les congressistes qui n'ont pas eu la messe ce matin. Je cède la parole à M. l'abbé Nicolas Portail.
Ce sera un panorama forcément rapide sur la situation du rite tridentin de la messe et des sacrements dans l'Église catholique après, ou même peut-être d'après Vatican II. Donc on remarque de 1969, c'est-à-dire en même temps que la promulgation du nouvel ordre Nicée, jusqu'à aujourd'hui, 2021, enfin l'année dernière, six permissions, plus exactement, qui vont être accordées pour pouvoir célébrer la messe et les sacrements, la messe et l'office divin, selon différentes conditions, soit de personnes, soit de lieux, soit même des conditions qu'on pourrait appeler théologiques. Et ces permissions se trouvent dans un cadre général d'une obligation. Je ne discute pas s'il s'agit d'une obligation de fait ou de droit d'assister, de suivre, de participer à la nouvelle messe, à la messe de Paul VI, pour être authentiquement, on dira, catholique. Alors, ce qui est intéressant dans ces six permissions, six indultes, on pourrait les appeler ainsi de façon générale, c'est à la fois les constantes et les différences. On peut distinguer trois grandes périodes, ou on pourrait peut-être appeler ça aussi trois étapes. 1969-1972, c'est le premier groupe, on pourrait dire, le premier binôme de permission. 1984-1988, deuxième étape. Et enfin, troisième étape, c'est 2007, le motu proprio summorum pontificum du pape Benoît XVI. Et puis, il y a le dernier texte, n'est-ce pas, de pape François de l'année dernière. On remarque tout de suite que l'ensemble des papes conciliaires ont donc légiféré, à part Jean-Paul Ier, qui passe comme une étoile filante, vous le savez, ils ont tous légiféré, grosso modo, après une quinzaine d'années d'intervalle, hein, 12 ans entre 1972 et 1984, 19 entre 88 et 2007, et 14 ans entre 2007 et 2021. Déjà tout de suite, ça nous indique que c'est une question qui a agité l'Église romaine de près. On remarquera ensuite, et c'est ce que nous allons voir maintenant par le menu, que la genèse de ces indultes, surtout après 1975, a été longue et souvent douloureuse. Le premier vient au jour en même temps que le nouvel ordo missae. C'est donc dans l'instruction Constitutione Apostolica du 20 octobre 1969 que l'on permet, c'est les articles 19 et 20, que l'on permet aux prêtres âgés de célébrer la messe traditionnelle malgré la promulgation obligatoire du nouvel ordo missae. Prêtres âgés, il est bien précisé, sine populo, sans personne, donc il se pose tout de suite un petit problème d'ailleurs vis-à-vis du savant de messe. Car vous savez que normalement on ne doit pas célébrer la messe traditionnelle sans avoir, depuis le pape Pie XII, médiateur dei, l'obligation d'être assisté. Alors donc, prêtre âgé, sans personne, et qui recevrait la permission de l'ordinaire, de leur propre évêque diocésain ou de leur supérieur ecclésiastique. On précise aussi que des prêtres malades, infirmes ou ayant d'autres difficultés qui ne sont pas précisées pour le coup, pourraient recevoir une même permission de la part de la congrégation des rites. Cette Constitutione Apostolica, cette instruction, va être rappelée incessamment, continuellement, pardon, dans les 6 années qui vont suivre. Un nouveau texte le 16 juillet 1971 qui reprend la Constitutione Apostolica en raison de leur âge avancé ou d'une infirmité, ceux qui éprouvent de graves difficultés à observer le nouvel ordo du missel romain, du lectionnaire, de la messe ou de la liturgie des heures. Toujours, il n'est pas permis d'avoir du peuple, n'est-ce pas, pour être assisté, et il est bien précisé qu'il s'agit de l'ordo de 1962, la dernière mouture du rite tridentin réformé par Jean XXIII, mais modifié en 1965 et 67. Et il est prévu que ça ne soit que pour le MS et que pour le bréviaire. Ces modifications de 65 et de 67 sont celles qui permettaient le vernaculaire pour les lectures, pour le chant du commun, tourner l'autel vers le peuple, et accorder des pouvoirs aux conférences épiscopales. Même le Tres Abdink Annos du 4 mai 67 permet le canon en vernaculaire et à voix haute. Donc c'était ce qui est permis, une messe traditionnelle déjà très modifiée et en voie, comme nous le savons, de devenir la nouvelle messe. Alors ce que l'on peut faire comme réflexion fondamentale, on pourrait dire, de synthèse. La raison de cette permission, c'est une raison qui est pastorale. On peut se demander si il n'a pas été accordé à ces prêtres âgés et infirmes la possibilité de célébrer toujours la messe traditionnelle au vu d'expériences précédentes, justement de ces modifications qui vont bousculer le rite tridentin entre 1965 et 1969. Transformations continuelles qui ont dû semer quelques perplexités et confusions chez bien des prêtres et donc qui ne se sont pas sentis capables de changer de liturgie après 20, 30, 50 ans de célébration. Donc, peut-être le constat d'une difficulté de ce genre, relativement répandue. Et deuxièmement, la révélation, on pourrait dire, que le nouveau rite de 69 et le rite de 62 sont si différents que certains ne peuvent pas s'y adapter. Cette concession, enfin, pour terminer, est, pourrait-on dire, un adulte sacerdotal. Il ne concerne que les seuls prêtres, donc c'est indiqué explicitement, il n'est pas possible qu'il y ait du peuple présent à cette célébration. Il est doublé par une deuxième permission, que l'on a appelée d'une façon un peu vulgaire l'indulte Agatha Christie, qui date du 5 novembre 1971 et qui est valable pour les diocèses d'Angleterre et du Pays de Galles. Il fait suite à une demande qui paraît dans le Times du 6 juillet, 57 signataires, des personnalités connues de l'époque, bien sûr, ont demandé de conserver, de pouvoir conserver la messe catholique romaine dans sa forme traditionnelle. Alors on trouve des gens comme Graham Greene, comme Tolkien, comme Yehudi Menuhin, comme le pianiste Ashkenazi. C'était, on peut le dire, n'est-ce pas, un certain gratin. Mais là, nous sommes vraiment en présence d'un indulte qui concerne le peuple de Dieu. Et donc, peuple de Dieu qui va pouvoir alors, en raison d'une dévotion véritable, c'est Mgr Benigni qui a signé d'ailleurs cet indulte, hein, en raison d'une dévotion véritable, pouvoir jouir de cette liturgie qui elle aussi reste toujours cette liturgie plus ou moins transformée en 65 et 67, mais dans des groupes particuliers qui en feraient la demande, et en faisant particulièrement attention à ce que cette permission n'atteinte pas à l'unité diocésaine, à l'unité de la communauté paroissiale. Et voilà pourquoi elles ne seront pas paroissiales, ces messes traditionnelles, elles ne seront pas habituelles. Il est précisé qu'il faudra en profiter uniquement pour des occasions spéciales, et que c'est bien sûr l'évêque, l'ordinaire, qui sera chargé d'accorder ou non la permission. C'est l'article premier, et il y a un deuxième article qui applique la même disposition aux prêtres qui pourraient faire la même demande. Alors, ce que l'on retient tout de suite de ce deuxième indulte, eh bien, c'est la priorité qui est mise, l'accent mis sur l'unité de la communauté. Et donc, une révélation, on pourrait dire, une indication que les deux rites, tridentin et conciliaire, pourraient s'opposer au point de créer des clivages dans l'Église, dans les églises locales, et ce qui insiste un peu plus encore, pourrait-on dire, sur la différence, et voire même peut-être l'opposition entre les deux messes. Cet indulte de Agatha Christie est, on pourrait dire, une mouture, un genre, on pourrait dire, d'indulte qui finalement va se retrouver bon an mal an dans les textes suivants sous Jean-Paul II et sous Benoît XVI. On trouve toujours cette raison pastorale, donc c'est pour le peuple de Dieu. On notera d'ailleurs que le peuple de Dieu passe avant le peuple sacerdotal, la tribu sacerdotale, ça c'est bien dans l'ordre de Lumen Gentium, un peuple de Dieu d'ailleurs très particulier, parce que finalement c'est pas du tout venant, n'est-ce pas? D'ailleurs quand Paul VI a regardé la liste des 57 signataires, il a dit Agatha Christie y est. Paul VI, le pape des pauvres, accède à cette demande. Peut-être qu'il a jugé qu'Agatha Christie était comme le porte-parole du catholicisme populaire du type Cockney. Et alors la forme type de l'indulte, préserver l'unité de la communauté. C'est un impératif. Et donc c'est cela qui oblige à un texte qui est directement sous l'emprise de l'ordinaire diocésain et qui ne peut pas correspondre à des messes paroissiales. Ensuite, on peut noter, n'est-ce pas, qu'il s'agit de répondre à un besoin spirituel, vraie dévotion, pratique, piété des fidèles. Ce qui pourrait peut-être nous laisser penser que le nouvel ordre missé, au moins pour certaines catégories de chrétiens fidèles, pourrait être un obstacle à la dévotion. Voilà les deux premières permissions qui sont accordées sous le pape Paul VI. On fera tout de suite la remarque que ces permissions n'ont rien à voir, n'ont rien de commun avec la permission que la bulle Coprinum Tempore avait donnée en son temps pour la subsistance de rites. De rites particuliers, de rites diocésains qui pouvaient se prévaloir d'un missel de 200 ans. Cette permission, n'est-ce pas, avait été accordée et l'indication de l'ancienneté des missels est bien précise, avait été accordée pour conserver des liturgies vénérables, mais sans danger d'infestation hérétique ou hétérodoxe, puisque on a pris cet écart de 200 ans. C'est effectivement à la fin du Moyen-Âge que les premières hérésies modernes de Wycliffe, de Jean Hus, ont vu le jour. Deuxième étape, l'indulte de 1984, Quatuor Abdic Annos, qui est daté du 3 octobre, et qui se place dans un cadre très différent de celui que nous venons de noter. Il y a eu le développement, l'affirmation l'action de Mgr Lefebvre et des autres tenants du traditionnalisme, comme on les appelle. Et même un affrontement à partir de 1975 avec Rome, entre Rome et Écône. Mgr Lefebvre a à ce moment-là demandé, et on pourrait dire d'une façon quasi immédiate, dès ses rapports conflictuels avec Paul VI, a demandé de laisser la possibilité de célébrer le rite tridentin dans toute l'Église à Notum. Et le pape Paul VI a refusé à plusieurs reprises. Nous avons sa lettre à Monseigneur le 11 octobre 1976. L'ordre missé est un signe privilégié de l'unité de l'Église. Il ne pourrait pas y avoir de concurrence dans ce domaine-là. Le bien spirituel et l'unité de l'entière communauté ecclésiale est trop important. Il y a ce fameux dialogue avec Jean Guiton où Paul VI refuse de façon ferme toute permission générale ou même particulière de célébrer la messe traditionnelle, car ce serait un symbole de la condamnation du concile. Si cette exception était acceptée, le concile entier serait ébranlé, rapporte Jean Guiton. cette position n'est pas celle de Jean-Paul II, et cela dès son entrevue avec Mgr Lefebvre le 18 novembre 1978. Et l'entrevue qui prend finalement une bonne orientation au début, le pape n'étant finalement pas opposé, contrairement à son prédécesseur, à laisser une liberté à la rite traditionnelle, cette entrevue connaît un virage avec l'intervention du cardinal Seppert. Ah, dit-il, oui, mais très impair, les traditionnistes font de la messe un drapeau. Et du coup, cela tourne court. Cette opposition du cardinal Seppert, qui est le préfet de la congrégation de la foi depuis novembre 1969, est une opposition ancienne. Déjà, il a jugé le bref examen critique des cardinaux Tagani et Bacci, qui développe tout un ensemble de raisons contre la nouvelle ordomissée, qui s'éloigne de la théologie catholique, dans l'ensemble comme dans le détail. Le cardinal Seppert a jugé cet opuscule comme contenant beaucoup d'affirmations superficielles, exagérées, inexactes, passionnées et fausses. Dans une lettre qui est parue dans l'itinéraire, en avril 1977, le cardinal Seppert a déploré, c'est vrai, une trop rapide suppression du rite tridentin par une nouvelle ordomissée, comme un remplacement d'un rite par l'autre. Une période de coexistence nécessaire lui semblait bienvenue pour que le nouvel ordomissée, alors, remplace le rite ancien qui disparaîtrait de sa belle mort. Donc, si le cardinal a critiqué la manière dont la réforme liturgique s'est imposée, il n'est pas du tout, par ailleurs, favorable à une quelconque survivance du rite traditionnel. Et donc la situation va finalement être bloquée, très certainement, à cause du cardinal Seppert jusqu'en décembre 1981. Et c'est à sa mort, lorsqu'il est remplacé par le cardinal Ratzinger à la tête de la congrégation de la foi, que s'ouvrent alors de nouvelles perspectives très rapidement. Nous avons la lettre du cardinal à Mgr Lefebvre le 23 décembre 1982. Et le cardinal Ratzinger fait une distinction qui finalement va être en quelque sorte bienvenue, oui, entre le cas particulier des traditionnalistes et le cas de l'Église entière, et le cas du rite traditionnel tridentin à permettre ou non. Cette question serait résolue pour l'Église universelle et donc indépendamment de votre propre cas. Donc, se désenclaver de la situation du cas, on pourrait dire, Lefebvre traditionnalisme. Alors attention, la pensée de Joseph Ratzinger est une pensée qu'il veut équilibrer entre archaïsme du traditionnalisme, il ne le dit pas comme cela, mais c'est cela qu'il désigne, et modernisation outrancière. Nous avons son discours au 81e Katholikentag du 14 juillet 1966, donc juste immédiatement après la fin du concile. Ces deux tendances, traditionnalisme, intégrisme, traditionnalisme, mais pas traditionnalisme, c'est plutôt mieux qu'intégrisme, et modernisme, sont marques d'étroitesse d'esprit, dit-il. Par ailleurs, il va dénoncer dans la nouvelle messe, et surtout dans la manière dont elle a été imposée, un nouveau triomphalisme, et dans la manière dont elle a été composée, un nouveau ritualisme. En fait, Joseph Ratzinger, qui va devenir Benoît XVI, se dit comme un pape missionnaire, il se présentera comme tel en 2005, entre donc traditionnaliste, conservateur et moderniste. Préfet de la congrégation de la foi, en novembre 1981, le cardinal Ratzinger a immédiatement pris en main la question de la messe traditionnelle en rassemblant une commission très privée, dont rien n'a filtré, en novembre 1982, quatre cardinaux, plus lui-même, cinq cardinaux, donc un évêque, se sont réunis en privé, les procès-verbaux n'ont pas été publiés, pour examiner le cas de la messe tridentine dans l'église conciliaire. Et cette commission arrive à des conclusions très intéressantes. Tout d'abord, que il est toujours possible, dans l'église conciliaire, de pouvoir jouir de cérémonies en latin. Et donc, que le missel d'avant 1969 pourrait être admis dans toute l'église pour ses messes en latin. Que les fidèles attachés au rite ancien et qui voudraient jouir de ces messes latines tridentines ne devraient pas développer des soupçons d'hérésie ou d'invalidité envers le nouvel ordo missae. Et nous sommes là, bien évidemment, dans la perspective de Mgr Lefebvre. Que l'on utiliserait le calendrier nouveau pour ce rite tridentin et que, c'est là le plus intéressant, serait prévu ce que l'on appellera plus tard une réforme de la réforme conciliaire. Donc, contre les abus largement répandus, un texte devait voir le jour qui exposerait l'essence de la Sainte Liturgie, qui serait conçu de manière à promouvoir la participation plus profonde au mystère des fidèles et qui traiterait de l'identité intime du missel ancien et du nouveau, de la forme ordinaire et de la forme permise, qui ne s'oppose nullement. Cette réforme de la réforme serait une synthèse des deux rites, conservant les acquis de la réforme conciliaire, supprimant certaines des innovations exagérées. C'est donc un projet très ambitieux qui est envisagé dès la fin de 1982, et c'est dans la suite de ce projet que le cardinal Ratzinger écrit à Mgr Lefebvre pour dissocier son cas du cas de l'Église universelle. Cette indulte du rite tridentin dépasserait donc les préoccupations strictement pastorales et immédiates de certains groupes de fidèles ou de certains prêtres. D'où l'indulte de 1984 ne correspond pas, il faut le dire, au projet exposé en 82. Au contraire, il y a des conditions très restrictives de lieu et de jour pour la permission de célébrer la messe traditionnelle dans l'église. Alors, les ordinaires accorderait cette permission, donc il s'agit d'un indulte pour l'ensemble de l'Église, hein, pas que pour les pays britanniques, sans préjuger de la légitimité et de la légalité d'une nouvelle ordo missae. Les groupes de fidèles qui voudraient jouir de ces messes devraient être indiqués explicitement, clause impossible à respecter et qui d'ailleurs ne sera pas respectée. Bien sûr, ce serait dans des chapelles non paroissiales, en tout cas, ça serait pour des messes qui ne seraient pas paroissiales, puisque, bien évidemment, elles ont été célébrées dans ces églises paroissiales. J'étais personnellement à cette grande cérémonie, on pourrait dire, à Saint-Étienne-du-Mont, qui a suivi un mois après la promulgation de cet indulte. Et le missel de 1900 utilisé serait le missel de 1962, sans mélange avec des rites du nouvel ordo missae. Nous arrivons là à l'aboutissement d'un large mouvement de réflexion et même de concertation. En 1980, le cardinal Knox avait demandé à tous les évêques du monde, 2317 ordinaires, leur rapport sur l'application du nouvel ordo missae. Et il avait fait paraître dans la revue de la Congrégation du culte divin, les Notitiés, en décembre 81, le rapport, et qui était finalement très négatif sur la messe traditionnelle. Les évêques dans les diocèses soulignait que le latin disparaissait de façon quasi complète et que, quant à la messe tridentine, le problème était inexistant. Autoriser ce rite jetterait un discrédit sur celui de Vatican II et porterait atteinte à l'unité. Donc, toujours les raisons de fond que nous avons remarquées dès l'indulte agathatistique. Problème. Alors, d'où le résultat dans les notitias, plutôt négatif, mais qui n'empêche pas, donc, cet indulte de 84. Dans le prologue de cet indulte, il est précisé que le problème, il semble que c'est un problème, de ces prêtres et fidèles attachés au rite tridentin est presque entièrement résolu. Point. Mais, donc, c'est la suite, hein, c'est la phrase immédiate après, mais comme le problème subsiste, alors on accorde l'indulte. Comment expliquer cette espèce de dichotomie, n'est-ce pas, dans le texte, dans l'indulte et même dans le mouvement général, mouvement liturgique général conciliaire? Eh bien, on l'explique, me semble-t-il, par ce désordre liturgique qui n'a cessé de croître dans l'Église conciliaire depuis janvier 1964. Il y a, pour les deux pontificats de Paul VI et de Jean-Paul II, près de 75 textes de remise à l'ordre contre les aberrations liturgiques, déjà constatées donc par Paul VI, puis par Jean-Paul Ier, à notre époque par Jean-Paul II, qui parlera au synode de 85 de subjectivisme du célébrant qui s'autorise toutes les fantaisies possibles. On va assister même à des reprises en main du nouvel ordre missé en 1978. Des normes sont publiées en 26 articles en avril 1980 et encore à l'extrême fin du pontificat de Jean-Paul II par Redemptionis Sacramentum en 2004. Le canal d'Anils en 1985, devant le synode pour les 20 ans de clôture de Vatican II, fait un constat d'échec complet de la réforme liturgique. Donc, il y a cette situation extrêmement douloureuse dans l'Église. Il y a aussi cette influence traditionnaliste, dont la condamnation en 1976, c'est paradoxal, a donné comme un élan mondial. Alors, il y a ces deux, pour le coup, problèmes qu'il faut résoudre, d'où cet indulte qui, en quelque sorte, voudrait désamorcer l'opposition d'un côté et peut-être montrer à un progressisme liturgique échevelé qu'il y a quand même une tradition liturgique et que celle-ci existe encore un peu. On notera cependant, dans tous les textes de remise en ordre de la liturgie conciliaire, que jamais Vatican II n'est remis en cause. Ce sont toujours des prêtres qui sont responsables des abus. Que on est très satisfait de la réforme accomplie. Et enfin, que, en général, on critique aussi les abus contraires, c'est-à-dire le traditionnalisme, en même temps que les abus progressistes. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce sont les jugements qui, à l'occasion de l'indulte, sont posés par des cardinaux. La lettre du cardinal Casaroli au cardinal Cassoria du 18 mars 1984, qui est une lettre préparatoire à l'indulte, signale que l'absolue interdiction de l'usage du missel traditionnel ne peut être justifiée ni d'un point de vue théologique ni d'un point de vue juridique. Donc, c'est dans cette perspective que le rite tridentin n'a pas été interdit, ou en tout cas n'a pas été interdit juridiquement, que se place ce nouvel indulte. C'est d'ailleurs la pensée du cardinal Ratzinger. Dès le numéro de Communio de novembre 1977, et qu'il va reprendre, l'idée qu'il reprendra dans son ouvrage La célébration de la foi à cette époque, paru chez Tecky en français en 1985. Le cardinal remarque que le nouvel Ordo Missae a été une liturgie fabriquée. On est sorti du processus vivant de croissance et de développement pour entrer dans la fabrication. C'est le produit banal de l'instant qui n'a rien à voir, continue le cardinal, avec une croissance organique. C'est là une des insuffisances du nouvel Ordo Missae. Elle est contraire au caractère propre de l'évolution liturgique. Ce nouvel Ordo Missae a été imposé violemment, comme ce que constatait le cardinal Sefer, et selon une conception qui n'est pas, qui est même diamétralement opposée à la conception traditionnelle. Brian Houghton, dans Prêtre rejeté, écrira à l'époque qu'il y a une messe contemplative, c'est l'ancienne, et une messe active, c'est la nouvelle. Le cardinal Ratzinger parlera plutôt de deux dimensions différentes, dimension verticale, c'est l'ancienne, dimension horizontale, communautaire, c'est la nouvelle. Monseigneur Lefebvre émet un jugement sur ses projets de 1982, dont il a été mis au courant, dans une note manuscrite de 1983. Il réfléchit sur la lettre que le cardinal Ratzinger lui a envoyée, et il a ses jugements. Il est difficile de ne pas pressentir dans l'aménagement de ces dispositions une manœuvre destinée à faire pression sur les prêtres traditionnalistes pour les convaincre de célébrer la messe nouvelle. En fait, l'indulte de 84, et qui prend le contre-pied finalement de ce que l'on pensait jusqu'à maintenant dans l'Église conciliaire, pourrait être pour Mgr Lefebvre une manœuvre d'unité ecclésiale. Un retournement de conception. L'indulte ne dessert pas l'unité, mais serait au service de l'unité au sein de l'Église conciliaire pour ramener les nostalgiques à aux beautés de la liturgie moderne. Donc, d'où la position de Mgr Lefebvre, grande précaution. Pour sauvegarder la permanence de la nouvelle messe, dit-il, et il faudra accepter de nouvelles conditions pour pouvoir dire l'ancienne, c'est chose que nous déconseillons aux fidèles, dit-il, dans un article de Communicantes d'août 1985. Il est bien à craindre qu'un jour, les prêtres qui auront accepté l'indulte soient obligés par leurs évêques de célébrer aussi la nouvelle messe, peut-être que ces paroles sont prophétiques, de célébrer les deux messes et éventuellement de concélébrer, d'accepter de donner la communion dans la main ou de dire la messe face au peuple, autant de choses qui nous répugnent absolument et par conséquent nous déconseillons aux traditionnalistes d'aller aux messes de ces prêtres. Il est dangereux de dire équivalente ces deux messes. Et les mêmes tendances qui frappent le clergé conciliaire aujourd'hui, peu à peu, se retrouveront dans les rangs du traditionnalisme. Et un jour peut-être, ces prêtres diront le nouvel Ordo Missae et attireront nos traditionnalistes vers la nouvelle messe. Ce jugement sur l'indulte de 84 est donc assez négatif, il faut le reconnaître. Il est doublé, cet indulte de 1984, par une deuxième permission tout à fait semblable, malgré les apparences, en 1988, au sein d'une commission créée exprès pour récupérer les prêtres et les fidèles quittant les rangs de la réaction traditionnaliste après les sacres du 30 juin 88 par Mgr Lefebvre. Ecclesia Dei Adflicta. Alors, à la vérité, nous avons déjà, dans le protocole d'accord signé par Mgr Lefebvre le 5 mai 88, nous avons deux allusions à la liturgie, chapitre 1, numéro 5. Il sera prévu, pour le cas où se fait cette réunion, une discipline spéciale concédée à la fraternité par une loi particulière. Donc c'est très large qui touchera le culte. Et dans le chapitre 2, paragraphe 1er, la fraternité pourra se jouir d'une exemption par rapport aux évêques pour ce qui concerne le culte public. Monseigneur Ratzinger et Monseigneur Mayer, dans une lettre à la communauté du Barou en juin 88, leur concéda un usage en privé et en public des livres liturgiques en vigueur en 1962. Et après, on pourrait dire, ces préambules, la commission Ecclesia Dei Ad Ficta mise sur pied le 2 juillet 1988, dans le motu proprio, Jean-Paul II va faire deux allusions à la liturgie. En vue de faciliter la communion ecclésiale, grâce à des mesures nécessaires pour garantir le respect de leur juste aspiration, pour ceux qui sont attachés à des formes liturgiques et disciplinaires antécédentes dans la tradition latine, leur seront donc concédées, et on le veut de façon très large, l'ancienne liturgie. On devra partout respecter le désir spirituel de tous ceux qui se sentent liés à la tradition liturgique latine en faisant une application large et généreuse des directives pour l'usage du missel romain de 1962 et l'indulte de 1984 et mis en référence. Donc, la permission dont vont jouir les communautés Ecclesia Dei à partir de 1988 se trouve bien dans la ligne de l'indulte de 1984, dont il faut rappeler les conditions. C'est l'évêque qui reste le maître absolu de concéder ou non une cérémonie traditionnelle ou une cérémonie habituelle, traditionnelle. La seule différence, c'est qu'on accordera avec plus de souplesse et sous l'égide d'une commission romaine devant protéger et favoriser cette permission. De fait, en 2007, on dénombrait en France 120 lieux de messe par indulte, soit lié à des commissions des sociétés Ecclesia Dei, soit l'indulte pur, on pourrait dire, de 1984. Lionel de Torret, dans son Histoire de la messe publiée en 1994, pose ce jugement sur la situation alors du rite traditionnel dans l'Église conciliaire à son époque. Le rite grégorien de Pie V est ainsi maintenant officiellement agréé. Mais comme rite exceptionnel ou secondaire, l'Église d'Occident dispose de deux rites romains, l'ancien et le nouveau, mais l'ancien, soumis au bon plaisir de l'évêque du diocèse, reste aléatoire, et le nouveau, remarque-t-il, manque encore de stabilité. De fait, il est bien entendu qu'il est impossible de jouir du rite traditionnel dans l'Église conciliaire sans auparavant avoir fait allégeance au nouveau rite conciliaire. La meilleure des allégeances sera de célébrer le rite nouveau, ce qui sera fait donc en particulier par les supérieurs des congrégations Ecclesia Dei, comme Mgr Bach en 91, Mgr Gérard en 95, Monseigneur Rissan en 2004 ou Don Louis-Marie en 2005. Ce qui nous amène alors au dernier indulte que nous pouvons envisager dans cette rapide présentation, Summorum Pontificum de 2007. Il y a eu une nouvelle évolution de la situation avec les traditionalistes après une longue traversée du désert. À l'été 2000, avec le jubilé, les négociations, les rapports suivis et les négociations ont repris entre la Fraternité Saint-Pédis et Rome, à deux conditions posées par les supérieurs de la Fraternité, Mgr Felet, le supérieur général à l'époque: liberté de la messe pour toute l'Église et levée des excommunications de 1988. Ces deux préalables sont jugés impossibles de réalisation sous Jean-Paul II. Mais sous le successeur, Cardinal Ratzinger, Benoît XVI, alors s'ouvrent des possibilités. Ce cadre, c'est le cadre toujours conciliaire dans lequel nous allons rencontrer Summorum Pontificum. En particulier, il faut noter ce synode sur l'Eucharistie, totalement silencieux sur une quelconque réforme liturgique, d'après le cardinal Arinze, qui est préfet du culte divin. Ce synode d'octobre 2005 ne voit qu'une seule intervention dans ce sens de l'évêque de Kisangani, Mgr Passinia, Congo, pour remettre la réforme liturgique, sans remettre la réforme liturgique en cause, mais demandant un certain toilettage, pourrait-on dire. De fait, le cardinal Ratzinger est muet sur ces questions en 2001 dans son interview à Il Giornale, à l'Express. En 1997, il avait d'ailleurs rappelé que le lefèvrisme était anachronique. Dans son entrevue avec Mgr Felet, Benoît XVI, en août 2005, n'a pas abordé la question de la liturgie. Parce que l'on en parle déjà cependant à cette époque, d'un nouvel indulte, il est jugé à cette époque par un bon connaisseur du pape et de la clergé romaine. Il s'agit d'un méthodiste converti, Scott Hahn, célèbre pour son petit ouvrage Rome Sweet Home. Scott Hahn signale que Benoît XVI n'est pas un restaurateur. Il n'y aura pas de restauration de la liturgie ancienne, mais une réappropriation du mystère de l'Eucharistie qui est à la fois divin et humain. Cela est fait d'ailleurs en partie au synode, où il y a un rappel fort pour le célibat ecclésiastique, le refus de la communion à ceux qui sont indignes de la communion eucharistique, comme en particulier les avorteurs, l'intercommunion eucharistique en général n'est pas possible, les adaptes de la cérémonie, le rituel des adaptes est fixé. Ces rappels d'une certaine réappropriation du mystère se font dans une idée très particulière que le cardinal Ratzinger exprime dans sa lettre au professeur Barthes en juin 2003. Un retour général à la messe traditionnelle est impossible, à la messe tridentine est impossible, mais faire un seul rite dans la tradition du rite ancien est ce qui est souhaitable. C'est donc bien dans cette perspective que nous devons comprendre l'indulte 2007 Summorum Pontificum. C'est texte le plus important la messe tridentine depuis 1969. Summorum Pontificum est marquant par son rappel fort que le rite tridentin n'a jamais été abrogé, jamais juridiquement abrogé, toujours resté autorisé, précise la lettre aux évêques qui accompagne l'indulte. Deuxièmement, entre la messe nouvelle et la messe ancienne, il y a un rapport de forme ordinaire à la forme extraordinaire. Un seul rite sous deux formes. C'est l'invention, en quelque sorte, de ce concept de forme extraordinaire pour désigner le rite tridentin. La raison théologique de cette réappropriation liturgique ancienne, ce qui était sacré pour les générations précédentes, reste grand et sacré pour nous et ne peut à l'improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste. Il est bon pour nous tous de conserver les richesses qui ont grandi dans la foi et dans la prière de l'Église et de leur donner leur juste place. Et enfin, c'est la reconnaissance que beaucoup de personnes étaient restées attachées au rite de leur enfance et que nous sommes là bien dans une perspective d'un but pastoral. Le pape le rappellera devant les journalistes en septembre 2008. Personnes qui ont été formées dans cette liturgie, qui l'aiment, qui la connaissent et qui veulent vivre avec cette liturgie. Le cardinal Ricard reconnaîtra en janvier 2007, il est alors le président de la commission de conférence épiscopale française, le cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux, reconnaîtra qu'il y a eu des demandes de fidèles, de familles, de jeunes, plusieurs milliers de demandes, dit le cardinal Castrillon-Hoyos. Alors, quelles sont les conditions données par ce nouveau rite, par ce nouvel indulte, pardon? Faut que je retrouve mes notes. Il est donné une permission de célébrer la messe traditionnelle, les sacrements et l'office divin. Donc, c'est une permission générale pour tout ce qui touche au rite tridentin, non seulement la messe, mais les autres sacrements. Aucune autorisation n'est nécessaire, c'est l'article 2 de Summorum Pontificum. Donc c'est vrai, c'est une liberté qui est donnée. Ah, elle n'est pas complètement absolue parce que le supérieur majeur pourrait donner des déterminations pour que la messe de Saint-Pie V soit dite de façon habituelle. C'est l'article 3. Et c'est vrai que l'autoproprio s'adresse aux curés qui devront accueillir et apprécier les demandes des fidèles, donc du peuple de Dieu, selon le canon 392. Une messe dominicale par paroisse pourra être en rite tridentin, précise l'article 5. Mais normalement, c'est donc la messe de Paul VI. Et donc tout de suite, on comprendra bien que, par exemple, les jours où il n'y a qu'une seule cérémonie dans l'Église, en particulier donc le Triduum pascal, il ne pourrait stricto sensu n'y avoir que selon le rite de Paul VI. On se permettra juste une petite réflexion canonique. Qu'en est-il dans cette nouvelle situation du rite traditionnel? Parce qu'il y a une véritable loi qui est donnée par ce motu proprio. Nonobstant tout ce qui était antérieur, est-il bien précisé. Qu'en est-il de l'indulte de Saint-Pie V, quo primum tempore, dont on nous a dit et répété, et c'est maintenant acquis, qu'il n'a pas été abrogé. Summorum Pontificum légifère à nouveau, donne une permission avec des conditions très larges, c'est vrai, pour la messe de Saint-Pie V. Mais nous sommes bien dans une nature juridique différente et il y aurait peut-être même presque une contradiction entre cet indulte et la véritable situation canonique du rite tridentin. Quant à la question théologique, cette nouvelle distinction entre forme ordinaire et extraordinaire pose aussi une certaine difficulté, car enfin, tout rite catholique est ordinaire, c'est-à-dire il est pour l'Église universelle romaine, ou alors pour une Église particulière, les Chartreux, les Maronites, les Dominicains. Mais en soi, une qualification d'extraordinaire pose vraiment difficulté. Il a fallu très certainement composer pour s'adapter à une situation de la liturgie dans l'Église conciliaire qui, depuis 1969, est extrêmement complexe dans l'Église catholique. Alors, c'est vrai, ce texte est dans une perspective romaine, traditionnelle, c'est l'introduction, il nous a rappelé que dans ce motu proprio, les papes ont toujours veillé à faire un culte digne de la gloire du nom de Dieu, pour le bien de toute l'Église, qu'ils sont gardiens de l'unité dans l'Église, par accord avec toutes les églises particulières, dans la foi, dans les signes sacramentels et dans les usages reçus de la tradition des apôtres. Donc, c'est vrai, il y a une volonté qui s'exprime de façon traditionnelle et qui très certainement a été perçue comme telle, puisque on pourrait peut-être parler d'une certaine explosion de messes célébrées soit par des prêtres seuls, soit par des communautés, installées ou pas, en rite tridentin. Dans un article pour les 10 ans de l'indulte, Romano Libero, journaliste à Golias, le 20 juillet 2017, déplorait ce succès, ces résultats, cette multiplication de ces messes traditionnelles qui, en France, a atteint aujourd'hui en 2017 221 messes hebdomadaires régulières. Alors, ce que l'on peut dire en conclusion, c'est que ce dernier indulte, et c'est peut-être sa fragilité intrinsèque, est lié, malgré tout, à la commission Ecclesia Dei. C'est elle qui l'a mis sur pied, qu'il a concocté, pourrait-on dire, en collaboration étroite avec Benoît XVI. Et le cardinal Castrillon Hoyos, qui est à l'époque le président de cette commission, expose devant les évêques à Aparecida en mai 2007 que le pape veut faire d'Ecclesia Dei un organisme du Saint-Siège pour conserver et maintenir la valeur de la liturgie latine traditionnelle. Ce n'est pas un retour en arrière, ils sont toujours très précautionneux, mais c'est une mise à disposition des trésors de l'Église en liturgie traditionnelle, en plus du nouvel ordre domicile. Il y a peut-être là l'arrêt de mort de Summorum Pontificum, parce que lié intrinsèquement à Ecclesia Dei, la disparition d'Ecclesia Dei, et nous savons que c'est le cas depuis le 17 janvier 2019, la disparition d'Ecclesia Dei doit logiquement entraîner celle de l'indulte Summorum Pontificum, et c'est donc Traditionis Custodes de juillet dernier.
Qui effectivement nous permet de mieux situer le contexte historique dans lequel se place Traditionis Custodes pour permettre aux retardataires qui sont encore dans le vestibule, dans l'atrium, d'entrer. Je vais peut-être faire une petite page de publicité. Profitez-en pour vous approcher. Il y a des places devant, il y en a aussi sur le côté. Il fait d'ailleurs un petit peu moins froid dans cette salle que dehors, j'imagine. Oui, page de publicité, je rappelle tout simplement l'horaire est le suivant. Donc, après l'exposé de 10h qui va avoir lieu tout de suite, nous aurons une pause d'un quart d'heure qui vous permet de vous rendre à la librairie, où vous trouverez bien sûr le courrier de Rome, vous trouverez également la revue d'ici, Nouvelle Lutte Créatée, le livre de Louis Salvon, dont il sera question dans mon exposé à quelques instants, puisque c'est un des grands défenseurs de la messe dès le début, aborigine. Enfin, il a défendu la messe traditionnelle dès le départ. Vous aurez donc l'exposé de M. Adéglaise, et après cet exposé qui se terminera aux alentours de midi 10, pas au-delà, M. l'abbé de Lacoste célébrera la messe à 12h15 précise à la chapelle supérieure. Voilà, vous êtes rentrés, et le vestibule est vide. Je parlerai dans la ligne exactement de ce que vient de me dire M. l'abbé. Je vous remercie encore de nous avoir bien introduit cette journée de travail, d'études de Traditionis Custodes. Je vous parlerai donc, comme le titre l'indique, de la messe tridentine et de son rapport avec Vatican II.
De façon prudente, le titre formule une interrogation. La messe tridentine remet-elle en cause Vatican II ? Il faut avouer que cette prudence est purement rhétorique, parce que si on regarde bien ce titre, si on le détricote un peu, parce que c'est un raccourci, c'est quelque chose de très ramassé, peut-être même un raccourci un petit peu brutal, que ça signifie, ça veut dire la célébration de la messe tridentine, favorisée par Summorum Pontificum, comme nous l'a rappelé l'abbé Portail, cette messe est une remise en question de la nouvelle messe voulue par le Concile, et donc ultimement c'est une remise en cause du Concile. Est-ce qu'on peut faire cette équation? Est-ce qu'on peut remonter comme ça aussi rapidement de la messe tridentine au Concile et dire que l'un contredit l'autre, et vice versa? Ça va être le sujet évidemment de cet exposé. Est-ce que cette équation est légitime? Eh bien, dans la première partie, nous allons nous appuyer sur les textes romains eux-mêmes. Pas de procès d'intention, non, nous allons regarder ensemble ce que les textes romains disent. Ils parleront d'eux-mêmes. C'est intéressant, bien sûr, parce que vous voyez aussi derrière qu'est-ce qu'il y a, non seulement une remise en cause du Concile, mais il y a aussi une remise en question d'une interprétation du Concile, celle de l'herméneutique de la continuité. Est-ce que ça voudrait dire alors, si cette herméneutique de la continuité est remise en cause, que seule l'herméneutique de la rupture est légitime? On voit là un peu le momentum christianiste, l'importance de cette question derrière ce petit titre innocent apparemment. Reprenons donc les textes eux-mêmes. C'est sans ambiguïté. L'article 1 du motu proprio du 16 juillet 2021 dit d'abord « Il n'y a qu'une seule expression de la lex orandi du rite romain. » Et c'est la liturgie promulguée par Paul VI. Elle est exclusive, donc ce qui signifie qu'elle exclut l'autre. Pas de cohabitation. Et d'ailleurs, à l'article 3, paragraphe 1, il est dit « Il ne faut pas que des groupes attachés à cette messe traditionnelle excluent la validité et la légitimité de la réforme liturgique. » Et là, on peut se dire, oui, mais ça c'est l'interprétation dure, celle du pape François. Ça n'est peut-être pas celle de celui qui a promu justement l'herméneutique de la continuité. Benoît XVI. Eh bien, la lettre d'accompagnement de François, adressée aux évêques, qui accompagne donc le motu proprio, s'emploie à montrer qu'il est dans la ligne de Benoît XVI. Le motu proprio reconnaissait pleinement le missel promulgué par Paul VI et l'expression ordinaire de la lex orandi de l'Église catholique du rite latin. Donc ça, c'est ce qu'il dit, etc. Mais il dit, il ne faut pas se dire que le motu proprio antérieur, celui qui l'abroge de facto, Summorum Pontificum, avait l'intention, avait pour but de faire fi de la réforme liturgique. Il le dit, cela. Non. Et dit-il, d'ailleurs, le pape était conforté dans son discernement par le fait que ceux qui souhaitaient retrouver la forme qui leur était chère de la Sainte Liturgie acceptaient clairement le caractère contraignant du Concile Vatican II, était fidèle au pape et aux évêques. Il ne dit pas comme cela gratuitement, il cite, c'est la note, n'est-ce pas, Benoît XVI, Epistula, Episcopos Catholici Ecclesiae Ritus Romani, 7 juillet 2007. Il a également, Benoît XVI, déclaré infondée la crainte de scission dans les communautés paroissiales, car, disait-il, citation, les deux formes d'usage du rite romain auraient pu s'enrichir mutuellement. Elles doivent s'enrichir. Ça, c'est une expression particulière. On verra un peu comment est-ce qu'il faut peut-être comprendre cela. Donc, ça veut dire qu'elles ne s'opposaient pas du tout. Elles se complétaient. Comment? Le Bivandaille, à juste titre, nous a dit que c'est très problématique, cette notion de deux rites, un ordinaire et un extraordinaire. Mais aussi, encore plus d'extraordinaire, cette question d'une complémentarité, d'un enrichissement mutuel. J'aborderai une interprétation tout à l'heure. Le pape, toujours dans cette lettre d'accompagnement, poursuit. Il regrette, il est attristé par l'utilisation instrumentale du Missale Romanum de 62. Donc on a instrumentalisé le Missale romain, ça veut dire aussi qu'on a instrumentalisé, ça veut dire qu'on a détourné le Summorum Pontificum de sa véritable finalité. On en a fait un ennemi de la liturgie conciliaire, et donc du concile, ce n'était pas le but de Summorum Pontificum. Voilà ce qu'il dit. Mais il montre que c'était quand même aussi ce que voulait son prédécesseur. Ce qui caractérise donc cette utilisation instrumentale, c'est un rejet croissant non seulement de la réforme liturgique, mais du Concile Vatican II. Alors nous avons une première réponse à cette question que nous nous posions. Est-ce que cette équation est possible? Oui, là, le pape dit lui-même, rejet non seulement de la réforme liturgique, mais aussi du Concile Vatican II. Avec l'affirmation infondée et insoutenable qu'il a trahi le Concile, la tradition et la vraie Église, entre guillemets. Un peu plus loin, il dit, douter du Concile, c'est douter des intentions mêmes des pères, qui ont solennellement exercé leur pouvoir collégial, cum petro et sub petro, dans le Concile œcuménique, et en dernière analyse, douter de l'Esprit Saint lui-même qui guide l'Église. Là, il élargit un peu l'adéquation. Ce doute porté sur la réforme, sur le Concile, atteint le Saint-Esprit lui-même, via les pères conciliaires. Ce n'est pas encore une fois un procès d'attention, je ne fais que lire. C'est précisément le Concile Vatican II qui éclaire le sens de la décision qu'il prend, là, lui, François, de réviser la concession accordée par ses prédécesseurs, c'est-à-dire, en clair, d'abroger Summorum Pontificum. Il le dit, c'est au nom du Concile menacé, du Concile mis en cause, que je prends cette décision. Je défends le Concile. Je défends l'unité. C'est comme ça qu'il voit les choses. Il établit toujours un petit peu dans cette lettre d'accompagnement une relation étroite entre le choix des célébrations selon les livres liturgiques antérieurs au Concile Vatican II et, dit-il, le rejet de l'Église et de ses institutions au nom de ce qu'il considère comme la vraie Église. Là, il revient, c'est une réflexion. Il faut avouer d'ailleurs que tous ces textes sont extrêmement répétitifs, non seulement sous la plume de François, mais aussi de son commentateur autorisé, en l'occurrence, Monseigneur Roche. Et ça ne varie pas d'un iota. C'est toujours la même chose qui est dite, avec une cohérence, avec une insistance quasi monomaniaque. Une relation étroite, dit-il, entre le choix des célébrations selon les livres liturgiques, ce choix fait par les fidèles et les prêtres attachés à la tradition, et ce rejet de l'Église. Il voit bien qu'il y a un lien entre les deux, donc ce n'est pas possible. Il parle à ce moment-là d'usage déformé. Il parlait tout à l'heure d'utilisation instrumentale, maintenant c'est un usage déformé qui a été fait contraire aux raisons qui ont conduit mes prédécesseurs à accorder la liberté de célébrer la messe. Alors, puisque l'usage est déformé, je supprime le motu proprio antécédent. Alors, il faut se demander, est-ce que c'est véritablement, justement, une instrumentalisation? Est-ce que c'est véritablement une mauvaise interprétation, un usage déformé, une mauvaise herméneutique, si je peux dire? La réponse d'Oubia, donc faite le 18 décembre 2021, qui nous donne, au fond, là, les applications, les modalités d'application pratique, va dans le même sens et éclaire très bien. Je passe rapidement. Vous avez, par exemple, donc on pose des questions à Doubia et le préfet de la congrégation répond. Donc c'est Monseigneur Roche, c'est la liturgie. Et là, il s'est dit, dans une réponse, il y a une note explicative, le motu proprio traditionis custodes vise à rétablir dans toute l'église du rite romain une prière unique et identique, exprimant son unité, en conformité avec les décrets du Concile Vatican II. L'évêque diocésain doit veiller à ce qu'on revienne à une forme unitaire de célébration. C'est clair. Donc ça veut dire que c'est exclusif. Ça veut dire donc que l'autre messe ne peut être que tolérée. Elle n'a plus de droit, elle bénéficie d'une tolérance. Ce droit de cité qui lui avait été reconnu par le pape, parce qu'elle n'était pas abrogée, qu'elle n'avait jamais été abrogée, parce qu'elle ne pouvait pas être abrogée, eh bien, maintenant, c'est simplement, aux yeux du pape, une tolérance. Et une tolérance, c'est quand même aussi soumis un peu à l'arbitraire de l'autorité. Vous avez une réponse du Mgr Roche au cardinal Nichols, qui est le président de la conférence épiscopale d'Angleterre. Elle est un petit peu antérieure à cette réponse au Doubia, mais on ne l'a connue qu'assez tard. Elle est du 4 août 2021, elle est publiée en français le 9 novembre. Et là, c'est la même chose, c'est une évariéture. Il apparaît clairement à la congrégation de la liturgie que la nouvelle loi abroge ce qui avait été précédemment accordé en tant que concession exceptionnelle et limitée. Vous voyez le choix des mots. Concession exceptionnelle, limitée. Un décrescendo. La prudence pastorale autorise cependant à déterminer des petites exceptions. Mais on voit que tout ça, c'est extrêmement circonscrit. Et puis alors, il rappelle qu'il y a eu des interprétations pécamineuses, si j'ose dire. Fausses interprétations. Des dispositions antérieures avec une pratique, des développements, une promotion. Là, on a un rythme ternaire, crescendo. Une pratique, des développements, une promotion accrue. Qui n'a pas pu encourager une croissance. Qui avait été ni prévue, ni sanctionnée par les pontifes romains. Donc c'est cette prolifération de messes dont on nous parlait qui est inquiétante, dangereuse. On n'ose plus le dire aujourd'hui, mais peut-être contagieuse. Il est nécessaire de prendre note, toujours dans cette réponse au cardinal Nichols, encore une fois, là on est dans Belle Marquise, vos beaux yeux d'amour me font mourir, c'est-à-dire des variations sur un même thème. Il est nécessaire de prendre note de Traditionis Custodes numéro 8 qui abroge toutes les normes, instructions, permissions, coutumes antérieures. Si vous ne comprenez pas, on vous le redit. La fausse interprétation et la promotion de l'usage de ces textes à la suite de concessions qui étaient purement limitées, accordée par des pontifes antérieurs, eh bien, elle a été utilisée en vue d'encourager une liturgie qui diverge, hein, c'est intéressant ça, qui diverge, une liturgie qui diverge de la réforme conciliaire et qui a été en fait abrogée par le pape Paul VI. Donc la messe avait été abrogée, on avait donné des tolérances, accordé des concessions, eh bien, on s'aperçoit que ça a été utilisé, mal utilisé, et que cette liturgie, en réalité, et qui se développe, eh bien, manifeste encore plus crûment cette divergence profonde avec la réforme conciliaire. C'est toujours la doctrine de François, mais c'est expliqué, là, en anglais, pour Nichols. On se pose donc toujours la question, est-ce qu'il s'agit vraiment de fausses interprétations de Summorum Pontificum, ou comme nous le montrait tout à l'heure, Summorum Pontificum permettait déjà cela, c'était déjà inclus. Est-ce qu'il y a derrière une dénonciation de cette herméneutique de la continuité? Des Mattei n'hésite pas à affirmer qu'effectivement l'herméneutique de la continuité est morte. C'était, avec la démission de Benoît XVI, il l'a portée à bout de bras, elle était fragile, elle était à géométrie variable, elle était un petit peu élastique, caoutchouteuse, difficile à tenir, et bien elle est morte. Alors donc, il ne reste plus que l'herméneutique de la rupture. Ce qu'on peut quand même ici constater, et je reviendrai peut-être vers la fin de l'exposé sur cela, c'est quand même... On voit une agressivité, il n'y a aucun doute, les textes ont été perçus comme des textes durs, c'est vrai, mais il faut aussi dire qu'il y a quand même une grande faiblesse. Parce que cette prolifération inquiétante, cette contagiosité, manifeste aussi une attitude purement défensive de leur part. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ça, on va le voir dans les mesures pratiques, établir un cordon sanitaire. Et en termes militaires, peut-être même une ligne Maginot. Le problème des lignes Maginot, c'est qu'elles sont faites pour être contournées. On a donc un cordon sanitaire pour empêcher toute contamination, comme une, avec l'idée effectivement de constituer une réserve pour une espèce en voie de disparition. Mais quand même, cette insistance, quasi monomaniaque, vous disais-je, manifeste une inquiétude. Pourquoi tant de moyens, pourquoi tant de dispositions, si c'était véritablement quelque chose qui ne concernait qu'une espèce en voie de disparition? La solution d'une espèce en voie de disparition, elle est naturelle, elle est biologique. Elle meurt, et c'est fini. Mais là, on s'aperçoit que peut-être cette espèce en voie de disparition a des enfants, voire des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Vous avez, et je terminerai sur cela, pour montrer cette constance, cette grande cohérence. Le Mgr Roche a toujours, lui, répond à Edouard Pantin. Pantin, c'est un journaliste, un vaticaniste intéressant, et qui essaye un peu, là, de défendre certaines positions traditionnelles. En particulier, il dit, mais il y a cet indulte d'Agatha Christie, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, Roche, d'un revers de main, dit, mais non, tout est abrogé, toutes les dispositions antérieures sont abrogées, exit Agatha Christie. Elle est morte, en tout cas son indulte. Là, il est dit, effectivement, le motu proprio, traditionis custodes, du 16 juillet, remplace toute législation antérieure. Le principe est maintenant établi. Alors, évidemment, il va donner deux petites précisions qu'on avait vues, mais il va revenir. Il y a le pontifical, c'est-à-dire les ordinations dans les communautés ecclésiadei, et les confirmations, et le rituel, c'est-à-dire les baptêmes, les mariages. Alors, il dit, c'est vrai, c'est permis pour les communautés qui bénéficient d'une paroisse personnelle, le rituel, le pontifical, pas du tout. Non, ça c'est fini. Le principe est maintenant établi selon lequel les ordinations dans l'Église latine sont conférées selon le rite approuvé par la Constitution de 68. Le pontifical romain de cette liturgie antécédente n'est plus en usage. C'est dit. Une concession a été faite pour l'utilisation du rituel romain antérieure, donc 62, c'est une concession dans les paroisses personnelles, mais elle exclut le sacrement de confirmation. Donc les choses sont dites là clairement. Il est clair dans Traditionis Custodes, autre réponse, que la célébration de la messe selon le Missale Romanum est une concession, on revient. Ça n'est pas la manière normale. Il faut y aurait maintenant deux rites, si vous voulez, le rite normal et le rite anormal, pour les anormaux. Vous avez les rites approuvés par les papes Paul VI et Jean-Paul II sont l'expression unique de la liturgie de l'Église. Et là, il faut avouer que Roche est d'une rosserie assez intéressante, romaine, s'entend. Il prend son interlocuteur à rebours. Il lui dit, mais vous avez une mentalité ecclésiadéi, donc vous considérez que les deux rites s'équivalent. Seulement, c'est une question de préférence. Vous préférez le latin, vous préférez... Très bien. Et alors, il n'y a pas de différence doctrinale, il n'y a pas d'opposition. C'est lui qui va mettre le doigt là où ça fait mal. Il dit, toutefois, permettez-moi de clarifier un point important. La liturgie n'est pas une simple question de goût ou de préférence personnelle. C'est la lex orandi de l'Église qui, dans la fidélité à la tradition reçue des temps apostoliques, c'est lui qui se fait là le défenseur de la lex orandi, est déterminé par l'Église et non par ses membres individuels. Alors, si c'est une question de goût, eh bien, vous allez mettre votre goût dans votre poche avec un mouchoir par-dessus et vous allez suivre la norme. La promotion de ces liturgies, je termine, étant survenue par la suite, est devenue problématique. Cette promotion, cette contagiosité était problématique par rapport à ce que le Concile, qui est la plus haute forme de législation, avait décrété. Ça posait problème. Donc, problème, opposition, difficulté. C'était un acte de tolérance dans un but pastoral, comme nous le disait tout à l'heure l'abbé Portail, pour des personnes qui avaient été formées dans cette liturgie. Beaucoup ont profité de l'occasion, donc instrumentalisation, mauvaise interprétation. Le Saint-Père a parlé maintenant, c'est fini, les possibilités liturgiques sont en place. Le défi est de s'y atteler, sans lécher ses plaies, alors que personne n'a été blessé. Là, il vient méprisant. Il faut les lire quand même, savoir un peu comment ils causent. Marcher ensemble, voilà, le pauvre interlocuteur lui dit, mais enfin, le pape est pour le synode, c'est une variation sur le thème de la collégialité, on est ensemble, on marche ensemble. Et l'autre lui dit, oui, c'est bien ça, on marche ensemble et c'est crève ou marche. On marche ou crève. Il n'y a pas de, c'est exclusif. Quant à votre remarque sur la synodalité, le mot signifie marcher ensemble. Ce qui est l'objectif précis du motu proprio et ce qu'il exprime, la direction dans laquelle l'Église doit marcher. Voilà. Marcher. Faut pas cadencer. Peut-être pour conforter encore ce que nous disait à l'instant l'abbé Portail, il est bon, parce que ça a été utilisé par certains, de se rappeler ce que le pape Benoît XVI disait lors d'une conférence de presse tenue dans l'avion qui l'a amené en France en septembre 2008. Parce qu'on s'est servi de cela en disant, vous voyez, il y a bien une opposition, le pape était pour, lui, les deux rites, et puis le pape François est dur, il ampute cette réforme, il la supprime. Non, il faut dire quand même que pour le pape Benoît XVI, ce que vous a dit Abbé Portail était ce qui suit. Il y a certainement des accents différents entre les deux rites, mais c'est une identité fondamentale qui exclut une contradiction, une opposition entre la liturgie renouvelée et la liturgie précédente. Donc, les ecclésiadéistes sont malvenus de trouver une opposition que le pape, lui, ne trouvait pas. Il voyait, il le redit, une possibilité d'un enrichissement des deux parties. Et il termine quand même en disant, il est clair que la liturgie renouvelée est la liturgie ordinaire de notre temps. C'est simple. Passons à la deuxième partie. Maintenant qu'on voit que ça n'est pas une invention, ça n'est pas un jugement personnel, il faut se poser la question, qu'est-ce qui oppose vraiment la messe byzantine au concile? Cette équation est valide, elle est pertinente, elle est faite par les auteurs eux-mêmes du motu proprio et leurs commentateurs. Qu'est-ce qui fait difficulté? Est-ce que c'est vraiment... J'écarte personnellement, donc vous l'avez compris, l'idée d'une herméneutique, d'une mauvaise interprétation de Summorum Pontificum. Non, je pense qu'il y a effectivement une question de fond, une opposition, non pas accidentelle, mais essentielle. Et sur ça, moi je m'appuie tout simplement sur le bref examen critique de Ottaviani et Bacci. Ils disaient tout de suite, dès 69, le nouvel Ordo Missae, si l'on considère les éléments nouveaux susceptibles d'appréciations fort diverses, c'est son côté effectivement ambigu, qui paraissent sous-entendus ou impliqués, eh bien s'éloigne de façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe, telle qu'elle a été formulée à la 22e session du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les canons du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l'intégrité du mystère. C'était la lettre d'accompagnement du bref examen critique qu'ils adressaient à Paul VI, donc en 69. C'est ça, la question. Tout le reste n'est que littérature. Petite remarque quand même en passant. Je trouve que ces critiques qui sont formulées par les conciliaires sont un petit peu extraordinaires. On vous dit, la messe tridentine que l'on oppose à la messe conciliaire, et que donc on oppose au concile, est là comme une espèce d'injuste agresseur. On jouit en paix de la liturgie, et là, on agresse cette réforme liturgique bienfaisante, et dont on sait les fruits incalculables, c'est-à-dire les églises désertes, les séminaires vides, et les monastères vendus à l'encan. Mais quand même, là, avant même de parler de, d'opposition, je pense qu'il faut aussi tout simplement faire une petite question sur la, l'antériorité. Qui est le premier à avoir agressé qui? Qui s'oppose d'abord à? La Maestria Donatina est antérieure, que je sache, au Concile Vatican II et à la liturgie issue de ce concile. Donc la question logique, et c'est la suivante, est-ce que cette messe issue du concile, elle n'a pas remis en cause la messe tridentine? Donc inversons la perspective, ne nous disons pas, oui, la messe tridentine agresse la messe de Paul VI. Non, c'est la messe de Paul VI qui contredit. C'est une question simplement d'autorité, puis je crois aussi de logique, puis tout simplement d'honnêteté. Cette question doit être posée. Et on voit bien, c'est ce que disent Ottaviani et Bacci. C'est bien cette messe-là qui s'éloigne de façon impressionnante de la Sainte Messe. Essayons de voir, après ces petites remarques qui sont comme des acousquilles, des amuse-bouches, essayons de voir le plat de résistance quand même. Qu'est-ce que c'est que ce concile, vaste problème me direz-vous, qui s'oppose comme ça à la liturgie traditionnelle? Puisque c'est bien cela, la rupture elle est là. Pas nous qui sommes en état de rupture, c'est eux qui sont en rupture, et pas vis-à-vis de nous qui ne sommes rien, mais en rupture avec de mille ans de tradition, ce qui est un petit peu autre chose. Ben, le concile, vous le savez comme moi, c'est la promotion de l'ouverture au monde moderne, à la modernité. Et la messe du concile, c'est ça aussi. C'est une messe acceptable dans le cadre d'une ouverture au monde. Je ne vais pas rentrer évidemment dans les questions purement ritualistes, si j'ose dire, pas rentrer dans des questions simplement liturgiques, mais l'esprit de cette messe, c'est ça. On a dit que c'était une protestantisation du Saint-Sacrifice de la messe, c'est vrai, mais parce que justement le protestantisme, qu'est-ce que c'est? C'est la religion par excellence ouverte au monde, ouverte au libéralisme du monde. Et par voie de conséquence, c'est la fermeture à la transcendance de Dieu, cette dimension verticale dont nous parlait David Portail tout à l'heure. C'est une messe donc qui est alignée sur la modernité. Ça se voit quand même, si on veut un petit peu faire un peu de liturgie de bazar, il suffit de savoir, surtout au tout début de la Réforme, quand ces églises se transformaient comme ça en salles de concert, guitare, au nom de l'inculturation d'ailleurs, percussion, et au nom de l'inculturation dans les pays de mission, balafon et que sais-je. Ce qui était d'ailleurs une insulte, moi qui viens de ces pays-là, ce qui est une insulte, parce qu'eux considèrent qu'on ne doit pas prendre les instruments profanes de leur musique profane. Ils savent que le grégorien est l'expression du sacré. Et les Noirs sont très attachés à cette liturgie traditionnelle. Je l'ai vu à Madagascar, je l'ai vu à La Réunion. Donc il s'agissait, c'est vrai, on l'a vu, les premiers commentateurs l'ont tout à fait bien compris, il s'agissait de rendre la messe acceptable aux yeux des protestants. Donc c'est une messe qui a été conçue dans cet esprit-là, acceptable aux yeux des protestants. Mais les protestants eux-mêmes acceptés par les adeptes de la modernité libérale. Je crois que c'est dans cette ligne-là que nous devons bien voir cette messe, et c'est pour cela qu'elle s'oppose. D'ailleurs, Romano Amerio, dans Iota Unum, à la page 503, dit bien cela. Bien sûr, on constate un abaissement de la visée, il l'appelle théotropique, c'est-à-dire tournée vers Dieu, théocentrique, si vous voulez, mais là, tropique, tournée vers Dieu, tendance de l'Église à se conformer aux sentiments sécularisants du monde, il faut évidemment que cette tendance s'exprime liturgiquement. Et il le dit, bien sûr, déformation des rites, renouveau général des choses d'Église, qu'ensuite le changement de la liturgie ait entraîné un changement de fond du dogme, il y a certainement une réciprocité d'influence, c'est-à-dire on veut s'ouvrir au monde, on transforme la liturgie, on la rend acceptable, c'est une messe, c'est plus la messe de toujours, c'est la messe du jour, c'est la messe au goût du jour, avec le, on a beaucoup parlé à cette époque-là, le petit missel, le missel hippie, le missel à fleurs, le missel biodégradable, celui qu'on changeait tous les ans, comme l'Almana Vermo. Et puis, vous avez la, cette messe up-to-date, comme on dit, n'est-ce pas, enfin, pour les anglophones, au goût du jour. Et puis, il y a bien sûr ensuite une influence sur le dogme lui-même. Mais c'est une réciprocité, là, d'influence. Et Romain Le Amérieux le disait à ce moment-là, c'est ce que nie généralement ce changement de fond du dogme sous l'influence, justement, de ces changements liturgiques, c'est ce que nie généralement ces auteurs, mais c'est ce que prouvent les faits, qui ont en cela force probatoire décisive. Il faut donc reconnaître que la réforme a changé une messe catholique, et elle était au départ, dit Romain Le Amérieux, la messe vraiment catholique, la messe sénontine, elle était inacceptable pour les protestants et pour le monde moderne dans lequel se meuvent les protestants. Eh bien, elle a transformé cette messe en une messe acceptable. Et il le dit, et il le cite, il suffit de voir le témoignage de Max Turian, qui disait autrefois, on ne pouvait pas. Max Turian, c'est un religieux protestant de Thésée. Et il disait, on ne peut pas célébrer, nous protestants, qui ne croyons pas à la présence réelle, nous ne croyons pas au sacrifice, nous ne croyons pas à la transubstantiation, nous ne pouvons pas célébrer cette messe. Avec la messe de Paul VI, c'est possible. C'est lui, il l'a écrit. Ça a été d'ailleurs admirablement commenté par Louis Salleron dès le départ, dans son livre La Nouvelle Messe. Alors, et Romain Le Amérieux continue ensuite, le prieur de Thésée, donc le frère Schulz, lui-même disait les nouvelles prières eucharistiques présentent une structure qui correspond à la messe luthérienne. Encore une fois, ce n'est pas un procès d'intention. On se contente de lire. Les faits sont là. Donc je crois qu'il faut vraiment replacer cette question de liturgie dans ce contexte-là, ce contexte, cette perspective d'ensemble, bien voir quelle était la finalité du concile, ne pas rester, si j'ose dire, il y a fait de petits pointillismes, je n'ose pas dire, de pile-poule, mais voyons les choses comme elles sont. Si la messe tridentine remet en question la messe du concile, eh bien, qu'est-ce que c'est que cette messe du Concile? Quelle influence le Concile a exercée sur cette messe, faite à son image et à sa ressemblance? Voilà les questions qui apportent. Tout le reste n'est que littérature. Le Concile, au fond, vous disais-je, donc, dont la messe est l'expression liturgique, le Concile, au fond, c'est une adaptation aux idées modernes. Mais là aussi, ce ne sont pas des procès d'attention. On lit les choses, tout simplement. Qu'est-ce que disait Benoît XVI, encore cardinal, dans cet entretien avec Vittorio Messori, dans le mensuel Jésus, novembre 1984, page 72. Pourquoi la foi est en crise? Eh bien, il disait, voilà, le problème des années 60, celle du Concile, 62-65, le problème des années 60 était d'acquérir, donc d'assimiler, d'accepter les meilleures valeurs exprimées de deux siècles de culture libérale. Ce sont en fait des valeurs qui, même si elles sont nées en dehors de l'Église, peuvent trouver leur place, épurées et corrigées dans sa vision du monde. C'est ce qui a été fait. Et c'est effectivement ce que tous les papes antérieurs au Concile considérés comme à ne pas faire. Cet alignement, n'est-ce pas, de l'Église sur l'esprit du monde moderne. Eh bien, la liturgie moderne est l'expression de cette démarche-là, fondamentale, essentielle, du Concile. Et on comprend, bien sûr, pourquoi la messe traditionnelle s'oppose. Elle ne peut pas, cohabiter avec, c'est évident. Donc, au nom de cette assimilation, une nouvelle vision du monde. Et là, je reprends une lettre. Elle est intéressante, d'ailleurs. C'est une lettre qui avait aux amis bienfaiteurs d'avril 2008, à l'époque où Mgr Feuillet était supérieur général. C'est la lettre 72. C'est au moment du motu proprio, 2007-2008, avril, avec un temps de réflexion. proprement helvétique. 2008, commentaire. Au nom de cette assimilation, donc, que Ratzinger assume pleinement, du monde moderne, une nouvelle vision du monde, dit, écrivait M. Offenet, une nouvelle vision du monde et de ses composants ont été imposées. Une vision fondamentalement positive, qui a dicté non seulement un nouveau rite liturgique, la messe est l'expression de cette attitude fondamentale, mais aussi un nouveau mode de présence de l'Église dans le monde, beaucoup plus horizontal, plus présente aux problèmes humains et terrestres que surnaturels et éternels. Et là, on peut se demander si, parallèlement à Summorum Pontificum, l'œcuménisme, la liberté religieuse, n'est-ce pas, tout ça doit coexister dans l'esprit du pape, tout cela va ensemble. Et si l'on accepte une concession pour la messe ancienne, il faut aussi quand même accepter les réformes de l'ensemble du concile. Est-ce que ça n'était pas l'idée de faire en sorte que, et c'était peut-être ça au fond, l'enrichissement mutuel, notamment de la liturgie, mais même des idées traditionnelles et modernes, arriver à faire en sorte que peut-être on puisse moderniser les traditionalistes. Ou aussi, ça ne s'exclut pas, il ne faut pas d'explication simpliste, réductrice et monocausale. Ça peut être aussi se dire, si les traditionnalistes acceptent, puisqu'on leur donne cette messe à laquelle ils sont attachés, la coexistence avec l'autre, ils apportent une caution. La tradition, n'est-ce pas, viendra cautionner. D'une certaine façon, traditionnaliser. Rendre un peu traditionnel, de façon purement extérieure, superficielle, mais rendre un peu traditionnel la réforme conciliaire. Ou alors aussi, donc, ça ne s'exclut pas, faire en sorte que, par l'acceptation de la coexistence des deux rites, faire en sorte que derrière ce qu'il y a, le rite moderne, soit aussi accepté les réformes, et que puissent effectivement les traditionnalistes être modernisés ou rendus modernistes. Ce sont des questions légitimes, on peut se les poser. Parce que, vous verrez tout à l'heure, Monseigneur Roche, l'ineffable Monseigneur Roche, dit « Mais donc vous avez instrumentalisé le Summorum Pontificum ». On s'aperçoit que non, lui-même à un moment dit non. On avait fait une réforme, on espérait que vous alliez rentrer dans cet esprit que nous avions mis en place pour vous. C'est-à-dire que vous acceptiez de cautionner d'une certaine façon l'ensemble de la réforme derrière la messe. Vous apportiez votre caution. Vous le faites pas. Alors c'est fini, l'expérience est terminée. On joue plus. Mais ça pouvait être aussi, on voulait aussi que vous enrichissiez de nous. C'est au fond ça, quand même. C'était un enrichissement mutuel. La tradition enrichissant les modernes, les modernes enrichissant la tradition. C'est-à-dire, en réalité, la tradition devenue moderniste. C'est pas un enrichissement, c'est une contradiction. C'est pas un enrichissement, c'est une suspension du principe de non-contradiction. Parce que c'est exclusif. Et sur ce point-là, je crois qu'ils ont tout à fait raison. L'un exclut l'autre. L'eau et l'huile ne s'enrichissent pas mutuellement. On ne les mélange pas. C'est comme ça. Alors vous avez, pour terminer cette deuxième partie, vous avez donc... ce changement, on ne peut pas dire, n'est-ce pas, bien sûr, que c'est... Je continue à lire un petit peu la lettre aux amis bienfaiteurs de 2008, donc dans la continuité de ce motu proprio qui était paru en juillet 2007. Là, Monseigneur Feuillet dit, il est impossible de parler d'un changement superficiel avec la question de la messe. Non, c'est pas ça. Et cette ouverture au monde de l'Église, non, c'est pas superficiel, c'est profond. C'est une nouvelle, c'est une profonde mutation. D'ailleurs, Jean-Paul II lui-même parle de nouvelle ecclésiologie. dont nous parlera l'abbé Glaise dans l'exposé suivant. Donc, ça admet un changement essentiel de cette partie de la théologie qui traite de l'Église. Donc, oui, je vous lis ce petit passage, il est savoureux, ça vous fera une petite sucrerie au milieu de cet exposé. Monseigneur Roche, donc il dit, Ecclesia Dei du pape Jean-Paul II et Summorum Pontificum de Benoît XVI, donc il voit comme l'abbé Portail une continuité entre les deux indultes, des du motu proprio, il dit, mais ça a été établi, dit-il, citation, afin d'encourager les lefébristes, moi je disais les traditionalistes, avant tout à revenir à l'unité avec l'Église. Là, ça ne marche pas, on s'est aperçu que ça ne connaissait pas. Alors, il y a avec un langage un petit peu familier, il est clair que traditionis custodes, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, c'est, voilà ce que ça dit, ok. Sic, évidemment, je ne me permettrai pas de parler devant un auditoire choisi comme ça. Donc, lui dit, Roche, ok. Ça vous rappelle quelque chose, bon, ça veut dire que vous ne lisez pas que saint Thomas d'Aquin. Ok. Cette expérience n'a pas été entièrement couronnée de succès. Eh oui, on reconnaît, il y a un échec, c'est pas ça. On a gratté. Eh ben, revenons à ce que le Concile Vatican II, pur et dur, avait demandé. Clair. On a l'impression, effectivement, que les Romains ont voulu, alors moi, je leur retourne le compliment, je pense que c'est eux qui ont voulu instrumentaliser la Mastridentine dans le cadre du Concile, du motu proprio, pardon, pour tenter de récupérer les prêtres et les fidèles attachés à la tradition. Mais donc, avec des vues humaines, diplomatique, non théologique. C'est ce qui frappait d'ailleurs Mgr Lefebvre. Lorsqu'il se rendait à Rome, il disait, mais j'ai affaire à des diplomates, des gestionnaires, mais pas des hommes de Dieu, pas des hommes d'Église. Pas avec des vues doctrinales, pas avec des vues surnaturelles. Parce qu'on n'instrumentalise pas le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. On ne se sert pas de la messe. On sert le sacrifice, c'est tout. Cette instrumentalisation signe, n'est-ce pas d'ailleurs, l'échec de cette mentalité, cette ligne conciliaire qui utilise comme ça, comme des appâts. Alors la tradition doit faire, et je passe à ma troisième partie, doit faire savoir que on ne veut pas effectivement changer. On veut rester fidèle effectivement à cette tradition bimillénaire. Nous n'entrons pas dans une vision humaine, diplomatique, politique. Nous voulons effectivement rester dans le surnaturel. La liturgie servie, la théologie servie, et dont on ne se sert pas au passage. Pour cela, je pense qu'on peut s'appuyer sur un très beau texte du Père Calmel. Parce que, disons-le, il y a une objection qui vient tout de suite. En disant, très bien, d'accord, vous refusez à toute adaptation. Vous êtes des fossiles. On a bien raison de penser que vous êtes les derniers des Mohicans. Vous êtes dans une réserve. Vous êtes en voie de disparition. Bon, ce qui les embête un petit peu, c'est que, je vous le disais, elle se reproduit beaucoup, cette espèce en voie de disparition. Il y a des vocations. Mgr Lefebvre d'ailleurs disait, ils ne comprennent pas toujours les arguments théologiques, mais en revanche, les arguments sonnants et trébuchants, ils les comprennent très bien. Les quêtes, le denier du culte, ça, voilà, des arguments qui leur semblent tout à fait probants. Ça les embête. Mais ils essayent quand même de jeter le discrédit. C'est une guerre asymétrique, comme disent les militaires, c'est évident. Vous avez le géant, Goliath, nous sommes David. Et puis, il se sert énormément de cette impressionnabilité des traditionnalistes, en essayant de créer un climat un petit peu de terreur. Mais oui, vous n'êtes que ça. Et alors là, je ne fais pas non plus un procès d'attention. Il suffit de lire le pape François. La rigidité, c'est vous. Les psychorigides, c'est vous. Incapable de s'adapter. Pas de miséricorde, pas de pastorale. Le dogme, le rite, le pharisaïsme, c'est vous. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, vous le savez, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, vous êtes des pélagiens. Ah bon? Je crois d'ailleurs qu'il ne sait pas très bien ce que c'est qu'un pélagien. Alors le père Calmet, lui, disait non. Cette objection, elle ne tient pas. Donc ça veut dire, sortez de ce climat un petit peu d'inquiétude pour essayer de vous communiquer. Il n'a pas lieu d'être. D'abord, dit-il, il y a un préalable. Le préalable, c'est dans quel esprit vous situez-vous. C'est un esprit surnaturel. C'est un esprit de charité missionnaire. Il est indispensable, dit-il. C'est dans la préface qu'il avait donnée à ce catéchisme antimoderniste du père Lemius et qui avait été publié par père Barbara, et il avait fait une très très belle préface. Ça a été repris d'ailleurs par les éditions que Saint-Pré donne dans un des livres. Il est indispensable, disait le père Calmel, c'est de 1974, il est indispensable de confesser la foi, d'en rendre un témoignage public avec autant d'humilité et de douceur que de fierté et de patience. Et il dit ceci, que je souligne, la vraie confession de foi est œuvre d'amour, d'humilité, de bonté, et pas seulement œuvre de force et de courage. Or, des difficultés nouvelles se présentent en période de révolution moderniste pour empêcher la confession de la foi et des sacrements de la foi d'être une grande œuvre d'amour. Mais si elle n'était pas cela, si elle n'était pas cette manifestation de charité, elle resterait la tradition très insuffisante. En présence de Dieu, des anges et des hommes. Il parle un peu plus loin du feu intérieur de la vie théologale. Donc ce n'est pas les livres, ce n'est pas les bouquins. Le feu intérieur de la vie théologale, de l'oraison, doit être assez intense pour nous faire rendre témoignage de la foi et des sacrements de la foi avec l'amour que le Seigneur désire. C'est ça qui est contagieux, c'est ça qui est communicatif, c'est ça qui est missionnaire. Et c'est dans cette seule perspective-là qu'on peut véritablement répondre à cette objection de la pseudo-rigidité. Il le dit. Si notre témoignage est pénétré de cet amour, l'objection spécieuse, reprise sous mille formes, sera vite balayée. On nous dit en effet, en enseignant le catéchisme romain, en maintenant la messe traditionnelle, latine et grégorienne, vous ne risquez pas d'avoir prise sur les âmes. Vous conservez des pièces de musée. Les âmes ont besoin d'une religion adaptée. Je vous assure, il écrit ça en 74, c'est la réponse à ce que nous lisons sous la plume du pape actuel. Les pièces de musée, il le dit. Et la religion adaptée, ou acculturée. Or, l'adaptation consiste, le père Calmet rentre dans cette mentalité pour faire mieux ressortir ses contradictions. L'adaptation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça consiste à prendre l'esprit du concile, à entrer dans ce mouvement d'évolution que vous appelez le modernisme. Modernisez-vous. Vous voyez? Et en 74, il nous donne déjà la réponse. Alors, il ne nous resterait qu'à être des désadaptés. Je disais tout à l'heure des anormaux, maintenant des désadaptés. Désadaptés de nos frères de maintenant, dans la mesure où nous confessons la foi de toujours. Question spécieuse. Et qui se trouve résolue en grande partie lorsque le témoignage est rendu par charité. Il faut la connaissance, mais il ne faut pas que. Il faut aussi cette vie théologale. En effet, la charité rend attentif aux véritables besoins du prochain. Fait deviner la bonne manière de présenter la religion de toujours, pour que sans être ni corrompue ni trafiquée, elle soit en rapport avec la conjoncture présente. Ça, c'est le zèle apostolique. La charité fait découvrir aux simples prêtres, et mieux encore à l'évêque, dans le champ restreint de leur autorité, la meilleure manière de prêcher la saine doctrine et de célébrer la messe catholique pour y faire participer les fidèles sans rien bouleverser. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord méditer sans cesse la doctrine. Méditer, pas simplement étudier. Méditer la doctrine et les rites traditionnels en vue de les tenir tels qu'ils sont, loin de les infléchir et de les déformer. Ensuite, vivre uni à Dieu, de sorte que les témoignages que l'on rend de la foi catholique, la ferme attestation que l'on porte, soit un effet de la charité. Credidimus caritati, j'ai lu ça quelque part. Ça n'est pas étonnant d'ailleurs, parce que Mgr Lefebvre lui-même le disait, il le voulait. Il ne voulait pas... Des prêtres intelligents, oui, des prêtres intellectuels, non. Il faut qu'il y ait effectivement cette vie. Alors bien sûr, vous allez me dire, ah, oh, ben alors, vous allez nous proposer une vision spirituelle. Oui, ça nécessite une conversion, ça, il n'y a pas de doute. Une vision spirituelle, du combat de la foi. Mais vous méconnaissez les enjeux prioritaires, les urgences actuelles. Il s'agit de se défendre. Non. Il faut faire ce que dit le Père Calmet, il faut faire ce que Mgr Lefebvre aussi disait. Et je me réjouis, je ne vous cache pas, puisqu'il ne me reste que quelques minutes, je me réjouis de voir que cette ingéniosité pastorale est à l'œuvre dans le district de France. Là, je vois le très beau thème de pèlerinage que M. l'abbé Jornat a proposé pour cette année. Je vois là, effectivement, cette force contagieuse de la tradition. Et c'est bien cette réponse. Il dit, dans son avant-propos, l'abbé de Jornat, au dossier doctrinal du pèlerinage, il dit, voilà, et on a l'impression d'ailleurs d'entendre, là, le père Camel, il est en écho, 74-2022, la raison de ces mesures ostracisantes, n'est-ce pas, du motu proprio traditionniste quisiodes, et que la messe tridentine est considérée par les autorités romaines actuelles comme une messe pour inadaptée. Tiens, c'est amusant, inadaptée, oui. Une liturgie pour des rétrogrades, incapables de s'ouvrir au monde moderne. Et alors il oppose à cela la merveilleuse phrase de Charette. On nous dit que nous sommes les suppôts des vieilles superstitions. Faut rire. Mais en face de ces démons qui renaissent de siècle en siècle, sommes une jeunesse, messieurs. Sommes la jeunesse de Dieu. La jeunesse de la fidélité. Amen. Vous avez donc maintenant un petit quart d'heure de pause. Vous pouvez vous rendre à la librairie d'ici, Nouvelle de Chrétienté, en promotion d'ailleurs, il y a un prix spécial pendant ce congrès, ça ne dure que 24 heures. C'est les soldes. Profitez-en et pour 2 euros, vous pouvez tout avoir. Vous avez le courrier de Rome, vous avez le livre de M. Salron, vous avez le livre La vie de Maubourg qui fut le grand maître de Louis Salron. Allez-y.
Mais oui, et vous travaillez sous le ministère de la Défense.
Là où j'ai mis mon sac, il y a des toilettes là-bas
Oui, non mais c'est les toilettes au fond.
Mais il va y avoir pas de monde.
Ah oui. Ah là, je connais pas du tout la maison.